RFI TV5 Monde vous présente Afrique Press, Denise Epoté-Durand.
Bienvenue dans Afrique Press, l'émission débat RFI TV5 Monde consacrée à l'actualité africaine et internationale de la semaine. À mes côtés aujourd'hui, Hassan Diop de Radio France Internationale, Stéphanie Hartmann d'Africa numéro 1 et Laurent Larcher de La Croix. En Angola, une page se tourne. Eduardo Santos, qui dirige le pays depuis 1979, ne briguera pas de nouveau mandat en 2018. Il a annoncé cette semaine qu'il quittera le pouvoir en 2017. Retour sur le parcours du commandant en chef des forces armées populaires de libération d'Angola, un reportage de Karine Henry.
C'est un homme peu enclin aux apparitions publiques, mais omniprésent dans tous les secteurs du pays. Arrivé au pouvoir en 1979, ce fils de maçon a imposé son autorité. Le président angolais dirige son gouvernement, commande l'armée et la police, nomme les juges, contrôle l'économie et les médias. Il réprime régulièrement l'opposition, comme à l'automne 2011, quand dans les rues de Luanda, on réclame davantage de liberté, de démocratie et de meilleures conditions de vie. Ce grand stratège a sorti l'Angola de la guerre civile. Il a aussi favorisé le boom pétrolier, mais ce bond en avant n'a bénéficié qu'à une infime partie de la population et surtout à sa famille. À commencer par sa fille aînée, Isabelle, surnommée la princesse, considérée comme la femme la plus riche d'Afrique par le magazine américain Forbes. Elle vient d'être installée aux commandes de Sonangol, la compagnie pétrolière nationale. À 74 ans, l'ancien rebelle marxiste semble fatigué par la maladie. En mars dernier, à la surprise générale, José Eduardo dos Santos annonçait sa retraite pour 2018, un an après les prochaines législatives. Personne n'y croyait vraiment. Aux dernières nouvelles, il s'en irait bien plus tôt.
Hassan Diop, après la leçon de Banjul.
Monsieur Eduardo dos Santos, je pense qu'il y a l'usure du pouvoir, il y a ses problèmes de santé, il y a la situation économique du pays qui n'est pas très très brillante. Les fils de maçons, mais sans jeu de mots, ce n'est pas un président bâtisseur. L'indépendance du pays, c'est pas lui, c'est Neto. Et c'est pas le vainqueur de la guerre civile contre Savimbi, contrairement à ce que l'on dit, mais plutôt les troupes cubaines de Fidel Castro. Fidel Castro a dépêché un corps expéditionnaire qui a contribué à la défaite, en tous les cas à affaiblir Savimbi, et puis après la fin de la guerre froide a fait le reste. Donc voilà, Eduardo Santos est comptable à mon avis d'un pouvoir usé, d'un pouvoir corrompu, d'un pouvoir qui a détourné un maximum d'argent des rentes pétrolières au profit d'une clique au pouvoir, excusez-moi ce terme suranné. Je pense que beaucoup d'Angolais ne regretteront pas son départ et que son départ pour moi n'est pas du tout la manifestation d'une attitude démocratique.
Une analyse que vous partagez, Laurent Larcher ?
Oui, je crains que c'est parfaitement exact. On n'a pas ici le geste d'un grand démocrate, mais le geste, je dirais, d'un autocrate qui, se sentant fatigué, on dit qu'il est atteint d'un cancer, prépare au fond sa succession. On assiste quand même peut-être à une page qui se tourne de ces chefs d'État issus...
Qui s'accrochent.
Oui, mais aussi de ceux qui sont issus au fond du marxisme, des années 70, qui ont pris le pouvoir, qui ensuite sont convertis à une forme de libéralisme le plus outrancier, au service juste, vous disiez, d'une clique, oui, ou d'un clan, aux dépens en tout cas de l'immense majorité. Et là, on a peut-être le début de toute c'est l'Inde, mais il n'est pas le seul, sur le continent, de ces grands doyens, si je peux dire, qui vont rendre la main.
Alors, contraint et forcé.
Lui, par la maladie.
Stéphanie Hartmann, malgré tout, c'est une élection ouverte qui se profile en Angola, très affaiblie par la disparition de Savimbi. Est-ce que l'UNITA a des chances de conquérir le pouvoir?
Élection ouverte, je ne sais pas. En tout cas, le départ annoncé de Dos Santos annonce un changement de visage. Pas une alternance, à mon avis. Le MPLA est toujours en force, et vu les conditions du règne, de domination du MPLA sur l'Angola, je pense qu'il est toujours en force. Et il y a de grandes chances que le MPLA remporte les élections législatives prochaines. Il faut savoir que le président est issu, c'est le président du parti qui remporte les législatives, qui est désigné président de l'Angola. Donc il y a de grandes chances que ce soit le MPLA. Alors je crois que c'est le samedi 10 décembre que le remplaçant à la tête du MPLA de José Eduardo dos Santos doit être désigné. Ça doit être Monsieur Lourenço, si je ne me trompe pas, qui était actuellement ministre de la Défense, donc qui prendrait les rênes du coup si le MPLA remportait les élections législatives, qui deviendrait président de l'Angola l'année prochaine.
Sadio, vous vouliez ajouter un commentaire.
Oui, voilà, il a raison, enfin Stéphanie l'a précisé, le système électoral de la désignation du chef de l'État est indirect, donc c'est effectivement le parti qui disposera de la majorité au Parlement qui aura le choix de désigner le chef de l'État, et je doute qu'à ce stade, l'UNITA ait les moyens, y compris d'ailleurs les moyens matériels de faire campagne à travers tout le pays pour, je dirais, conquérir la majorité parlementaire. Et puis quid aussi, après le départ de M. Dos Santos, de ce népotisme qui a caractérisé son pouvoir. On a parlé de sa fille Elisabeth, multimilliardaire qui dirige la Sonangol, mais qui a aussi un fonds d'investissement privé qui pèse des milliards. Il y a également son frère qui dirige le fonds d'investissement public qui pèse aussi des milliards. Alors, est-ce que la fin de M. Dos Santos signifiera aussi la fin des hautes positions occupées dans l'appareil économique par ses enfants? L'avenir nous le dira.
En dehors de ses amitiés au sein de l'international socialiste avec le Guinéen Alpha Condé, le Nigérien Issoufou Mamadou et le Malien Ibrahim Boubacar Keïta, à son arrivée à l'Élysée en 2012, François Hollande n'avait aucune connaissance du continent africain. Les crises maliennes et centrafricaines ont fait de lui un commandant en chef. Alors qu'il s'apprête à quitter le pouvoir, quelle image garderont de lui les Africains à Hassan Diop?
Écoutez, une image positive. Moi, je reviens d'Afrique il y a quelques jours. Honnêtement, c'est l'image de dignité qui revient. Et l'image de cohérence aussi. La plupart des commentateurs disent, avant même que ce ne soit la droite qui l'ait affaibli, c'est son propre camp, la gauche, au plus large terme, qui l'a affaibli. Les mots de Mélenchon, blessant, offensant, dès qu'il a pris le pouvoir, le qualifiant de capitaine de pédalo, les caricatures, les frondeurs également de son camp. Dignité aussi parce que effectivement il a tenu compte de l'attitude de l'opinion à son égard. L'opinion n'a pas voulu tenir compte de ce qui est son bilan, de ce qui a été véritablement son action politique. Il dit voilà, je respecte la position de l'opinion, donc je ne me représente pas. En tous les cas, il s'en va avec dignité et puis avec cohérence par rapport à certains discours qu'il tenait enfin aux Africains. L'alternance, le respect de l'alternance au pouvoir. Il a demandé à Kabila, il a demandé à beaucoup de dirigeants africains qui s'entêtaient à rester au pouvoir. L'alternance au pouvoir,
c'est... Il n'a pas toujours été entendu, hein.
Il n'a pas toujours été entendu, justement. L'alternance au pouvoir, c'est respecter la décision populaire. Voilà.
Cette image qu'on gardera de François Hollande en Afrique, Laurent Larcher.
Alors moi, je partage moins l'image, pardonnez-moi, à Hassan Diop. D'abord, il n'y a pas une Afrique, donc c'est compliqué si votre question c'est du point de vue de l'Afrique ou du point de vue des Afriques plutôt. Je pense que du point de vue, évidemment, au Mali, on va garder de...
Moi, c'est surtout l'Afrique francophone qui est concernée, hein, parce qu'il a eu très peu de contacts avec l'Afrique anglophone, excepté l'Afrique du Sud.
Pour son crédit, en revanche, il a essayé d'être plus présent, il a essayé de pousser la diplomatie française plus présente dans l'Afrique anglophone, à la différence de ses prédécesseurs. Mais ensuite, je suis pas sûr que les démocrates africains vont garder une grande image de François Hollande. J'ai plutôt l'impression qu'ils vont être très déçus entre les promesses du début, son discours sur la France-Afrique, sa rupture avec les procédés de l'ancien temps, avec cette manière de recevoir, disait-il, des dictateurs à l'Élysée. Ça, bien entendu, ça avait soulevé, je crois, du point de vue des démocrates, mais au Tchad, au Gabon, au Congo, un grand élan d'adhésion. Et puis, patatras, tout s'écroule très rapidement.
Puis, c'est vrai qu'on peut lui reprocher ses relations avec Idriss Déby. Mais Idriss Déby a été un allié fondamental, un allié militaire pour combattre le terrorisme au Mali, où les troupes tchadiennes ont payé le prix du sang. C'est vrai que Idriss Déby n'est pas du tout recommandable aux yeux des critères démocratiques que l'on peut avoir ici en Occident, mais il n'empêche que ça a été le meilleur allié militaire français.
Réel politique.
Voilà, et dans les circonstances qui angoissent tout le monde, le terrorisme qui frappe aussi bien à Paris qu'à Bamako, qu'à N'Djamena, sans parler de ce nord-est du Nigeria meurtri par Boko Haram.
Laurent Larcher, dernier rendez-vous en terre africaine pour François Hollande, ce sera le sommet Afrique-France de Bamako qui se tient début janvier, le 27e sommet, dont le thème est « Partenariat pour la paix et l'émergence ». Que faut-il en attendre ?
Écoutez, pas grand-chose, parce que c'est un président partant. Comment voulez-vous établir quelque chose de sérieux et pour l'avenir avec une personnalité qui va partir, avec une administration qui va changer, et on annonce un changement quand même assez important au mois de mai. Ça sera plutôt, je pense, l'occasion pour l'Afrique, une partie de l'Afrique francophone, de le remercier sans doute de son intervention au Mali.
En Centrafrique.
Alors là, je
même si le bilan n'est pas celui qu'on espérait.
Oui, là, pour moi, le bilan est très contestable, en tout cas très disputable. Évidemment, dans le storytelling de l'Élysée, on présente ça comme une opération extrêmement bien réussie, mais quand on connaît la Centrafrique, on voit bien qu'elle n'a pas résolu tous les problèmes et les foyers de guerre sont toujours malheureusement présents dans son pays.
Hassan Diop, au sommet d'Antananarivo, au sommet de la francophonie, François Hollande a eu ses propos en parlant de la francophonie. C'est un choix, une chance et une promesse. C'est la première fois qu'on entend un président français depuis Jacques Chirac s'engager autant pour soutenir cette institution.
Honnêtement, très franchement, sur le plan de la politique étrangère de François Hollande, l'Afrique tiendra une place très importante. L'Afrique a tenu une place très importante. Et je pense qu'il y a aussi même presque une approche affective. On sait qu'il entretient des relations maintenant très étroites avec un certain nombre de dirigeants. Et c'est une approche du cœur, c'est une approche, une certaine forme de générosité. Et parfois, évidemment, une approche politique, pragmatique, militaire, contestable sur certains points, mais globalement, pour moi, le bilan de sa politique, de son quinquennat, unique quinquennat, concernant l'Afrique aura été positif, même si beaucoup d'intellectuels africains, piqués par le nationalisme, souvent d'ailleurs assez un nationalisme vain. Qu'est-ce qu'on aurait fait si, par exemple, la France n'était pas intervenue au Mali pour stopper l'avancée des djihadistes vers Bamako?
Il reste Kidal.
Hein, voilà, il reste Kidal, d'accord. Mais enfin, c'est quand même quasiment... c'est tout le territoire malien qui a été ainsi sauvé. En Centrafrique, Sangaris n'a pas pu ramener totalement la paix, mais les 12 000 casques bleus de l'ONU sont toujours à la peine. On peut tout de même reconnaître peut-être que Sangaris aura limité les tueries de masse qui se profilaient dans ce pays.
Ce sera le mot de la fin. Merci à Hassan Diop de Radio France Internationale, à Stéphanie Hartmann d'Africa numéro 1 et à Laurent Larcher de La Croix. Vous pouvez réécouter et revoir cette émission sur les sites de RFI et de TV5 Monde.
RFI Afrique, Hassan Diop au micro, place à l'invité Afrique, c'est à propos du Cameroun. Elle n'a toujours pas été reconnue officiellement, pourtant la France a bien mené une guerre au Cameroun avant et après l'indépendance de ce pays dans les années 50 et 60. Adepte de la doctrine de la guerre contre-révolutionnaire, l'administration coloniale française a employé tous les moyens pour réduire le fameux mouvement nationaliste camerounais de l'UPC. Union des populations du Cameroun. Après leur somme qui a fait date, les auteurs de Cameroun publient un ouvrage synthétique intitulé « La guerre du Cameroun, l'invention de la France-Afrique ». Thomas Deltombe, l'un des auteurs et l'invité d'Anthony Lattier.
Bonjour Thomas Deltombe.
Bonjour.
Avec ce livre, vous synthétisez, vous prolongez aussi le travail que vous avez effectué depuis plusieurs années sur la guerre du Cameroun. Cette guerre, est-ce qu'elle a été masquée par une autre guerre qui se déroulait à peu près en même temps, et vous l'évoquez, la guerre en Algérie?
Alors effectivement, ce qui est assez compliqué et assez étonnant avec la guerre du Cameroun, c'est que personne n'en a entendu parler. Pour la raison que vous évoquez, effectivement, la guerre d'Algérie avait lieu au même moment et monopolisait d'une certaine façon l'attention de l'opinion publique française. Mais cette guerre a été délibérément camouflée. Une des instructions était « il faut faire régner le silence ». Pour une raison simple, avant l'indépendance de 1960, c'est que le Cameroun n'était pas une colonie au sens strict du terme, mais un territoire international confié à la tutelle de l'ONU et administré par la France et l'Angleterre. La France n'avait pas le droit juridiquement et légalement de réprimer le mouvement nationaliste qui d'ailleurs ne faisait que réclamer finalement ce que l'ONU avait promis au territoire sous tutelle. C'est-à-dire l'autonomie, l'indépendance, la justice sociale, etc. Et donc, comme la France se retrouvait coincée par le droit international, elle a décidé d'utiliser la force pour, comme disait Mesmer, éliminer politiquement et militairement ceux qui réclamaient l'indépendance.
Cette guerre aujourd'hui, elle est, c'est vrai, un peu oubliée. Elle n'est pas reconnue officiellement. Est-ce que aussi, ça n'est pas dû au fait qu'elle n'est pas vraiment délimitée dans le temps ?
Alors effectivement, c'est compliqué puisque cette guerre n'a pas eu un début fracassant comme ça a été le cas en Algérie en 1954, et elle n'a pas eu de fin fracassante non plus comme les accords d'Évian de 1962 avec l'Algérie. Donc c'est une guerre qui s'est instillée progressivement au Cameroun et qui s'est arrêtée également progressivement. Donc il est difficile de la saisir d'une certaine façon d'un point de vue historique. Et ça a permis également une forme de camouflage en disant puisque c'est une guerre dont on ne voit ni le début ni la fin, est-ce que c'est une guerre? Est-ce que simplement c'était pas une simple opération de maintien de l'ordre, tout ce qui est de plus banal?
En 2009, l'ancien Premier ministre François Fillon avait nié l'existence de ce conflit. 6 ans plus tard, le président Hollande, lui, il a dit qu'il y avait bien eu une répression en Sanaga maritime, au pays Bamiliké. Il a parlé d'épisodes extrêmement tourmentés. Est-ce que tout ça, ça va quand même dans le bon sens?
On est passé, disons, d'une logique d'occultation totale à une logique, je dirais, de minimisation, d'euphémisation, voire de maquillage. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller sur le site de l'ambassade de France au Cameroun, mais il y a une chronologie sur l'histoire du Cameroun. D'ailleurs, chronologie qui commence le 1er janvier 1960, c'est-à-dire au moment de la proclamation de l'indépendance, comme s'il n'y avait pas d'histoire avant. Mais passons sur ça. On voit, il est écrit, 1961-1963, répression avec l'aide des forces françaises de l'insurrection orchestrée par l'UPC. C'est intéressant comme formulation, parce qu'en réalité, elle est extrêmement mensongère. C'est pas une répression, c'est une guerre. Avec l'aide des forces françaises, en réalité, c'est pas l'aide des forces françaises. La France a été l'initiatrice, l'organisatrice de cette guerre, à partir de 1956, avec le fameux Pierre Messmer dont on parlait tout à l'heure. Et l'insurrection, quelle insurrection orchestrée par l'UPC? Non. En réalité, la formulation devrait être que la France a orchestré une guerre pour éliminer politiquement et militairement le mouvement nationaliste porté par l'Union des Populations du Cameroun. Donc vous voyez, on n'est plus dans une logique d'occultation totale, mais dans une logique de maquillage qui finalement est mensongère.
La Grande-Bretagne a une histoire plutôt similaire avec le Kenya, la répression des Mao-Mao, silence d'État pendant plusieurs années sur des massacres commis, et puis enfin en 2013, reconnaissance officielle des crimes coloniaux, indemnisation de certaines victimes. C'est un exemple à suivre peut-être pour la France?
Je trouve que cette comparaison n'est pas à l'honneur de la France. Oui, ça peut être un exemple. En tout cas, il faut absolument que les autorités françaises sortent de leur autisme sur ces questions-là. C'est urgent car les archives qui, en raison du climat et du mauvais entretien, sont en train de disparaître et surtout les témoins sont également en train de disparaître. Et je pense que quand on aura un nouveau président en France ou même dès maintenant avec l'ambassade de France, vous pourriez les convier ici à ce micro et leur poser ces questions.
La guerre du Cameroun, le titre de votre livre, vous sous-titrez l'invention de la France-Afrique. Pourquoi l'invention?
C'est une guerre qui rentre dans une logique beaucoup plus globale, qui est celle de la réforme conservatrice du système colonial. Et le Cameroun a été le premier pays où la France a entrepris et finalement réussi à contrôler l'indépendance d'un pays africain. Au lieu de la subir, comme ça avait été le cas en Indochine ou en 54 ou en Guinée en 58. À cause de ces échecs, les autorités françaises ont imaginé un système qui permettait d'effectivement octroyer l'indépendance, comme disait Pierre Messmer, nous allons accorder l'indépendance, mais comme elle le disait également, de ne pas la confier aux Camerounais, mais simplement à une partie des Camerounais qui travaillerait main dans la main avec la France contre finalement les intérêts du peuple camerounais. Et donc l'indépendance a été falsifiée, de sorte qu'elle ne sert plus les intérêts du peuple camerounais et des colonisés, mais qu'au contraire, elle est utilisée, elle est retournée contre le peuple. Et là, ça, c'est la base du système France-Africain.
Merci Thomas Deltombe.
C'est moi qui vous remercie.
Thomas Deltombe, l'un des auteurs de la guerre du Cameroun, l'invention de la France-Afrique, répondait aux questions d'Anthony Latier.
Offre spéciale et limitée.